Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour Histoire de Savoir, un magazine de Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Au micro et à la technique, Adeline Wickmans. Aujourd'hui, eh bien, c'est Benoît Beyerderic, historien et philosophe, qui nous emmène découvrir la vie de Samuel Pepys. Alors Samuel Pepys est un administrateur et parlementaire anglais du XVIIe siècle qui aurait très probablement sombré dans l'oubli le plus total s'il n'avait pas eu la très bonne idée de tenir un journal et surtout de le tenir pendant des années qui ont été particulièrement importantes dans la vie londonienne. Son journal couvre la période de la Grande Peste, la période du Grand Incendie de Londres, des périodes de guerre, et surtout dans les moments où il ne parle pas de ces événements-là, il fournit une quantité phénoménale d'informations sur sa vie au quotidien, ce qui fait de ce journal évidemment une merveilleuse source pour les historiens qui ont travaillé là-dessus pendant des années. Voilà. Donc Benoît Beyerderic nous emmène à la rencontre de Samuel Pepys. Benoît Beyerderic, on se voit aujourd'hui pour faire quelque chose qu'on a déjà fait quelques fois au cours des dernières années, c'est-à-dire que vous nous emmenez à la découverte de quelqu'un que nous ne connaissons pas spécialement bien, hein, ou même parfois pas du tout. La personne dont on va parler, c'est quelqu'un dont moi j'avais juste lu le nom perdu dans un musée à Londres. Ces parcours de découverte sont chaque fois particulièrement intéressants. Alors aujourd'hui, on va partir à la rencontre de Samuel Pepys.
Voilà, tout à fait. Samuel Pepys, qui se prononce Pepys en réalité, mais ça s'écrit P-E-P-Y-S, et c'est un personnage du XVIIe siècle anglais qui est connu aujourd'hui pour le journal qu'il nous a laissé sur une période qui porte sur les années 1600-1669, qui apparaît véritablement comme le miroir de la société anglaise du temps. Et ce journal, en fait, c'est tout à fait intéressant parce qu'il n'aurait pas dû nous parvenir. Il n'était pas destiné à être lu par quelqu'un d'autre que par Pepys lui-même, puisqu'il a été rédigé dans une sténographie particulière, la sténographie de Shelton, adaptée par Pepys. Et il s'est retrouvé, ainsi que ses autres, sa bibliothèque et ses autres manuscrits, livres, documents, dans le legs qu'il a fait à l'université de Cambridge, au Magdalen College où il a fait ses études. Et c'est là que ce journal va être découvert au début du 19e siècle par un étudiant, quelqu'un qui va devenir un révérend, John Smith, qui va devenir le champollion de ce journal, qui va en fin de compte le déchiffrer, qui va consacrer 3 ans de sa vie à déchiffrer ces 3000 pages de journal écrites dans une sténographie donc assez illisible quand on n'a pas les clés. Et il va en donner une publication, une édition partielle en 1825, édition qui va être reprise et faire l'objet de diverses rééditions au cours du 19e siècle, mais dans l'Angleterre victorienne de l'époque, tous les passages un peu crus, un peu sulfureux, disons, j'expliquerai en quoi certains l'étaient, vont être caviardés, vont être coupés au montage. Et donc, on disposait de ce journal dans une version incomplète, mais qui a permis quand même de connaître au 19e siècle le personnage de Pepys. Mais il a fallu attendre le 20e siècle et les années 1970 pour qu'une édition complète en anglais voit le jour, une édition qui a fait l'objet d'une traduction en français quelques 20 ans plus tard, à la fin du 20e siècle. Et sur cette édition, justement, traduite dans la collection bouquins chez Robert Laffont, que j'étais tombé il y a de cela presque 30 ans, et ça m'a donné l'idée de m'intéresser à ce journal à l'époque. Et j'ai repris, au fond, cette recherche que j'avais menée il y a 30 ans pour présenter lors d'une petite conférence cette édition du journal. J'ai retravaillé cela, j'en ai donné une nouvelle conférence aujourd'hui au Cercle Royal Artistique et Littéraire de Gand. Donc Samuel Pepys, le journal de Samuel Pepys, miroir de la société anglaise du XVIIe siècle.
C'est un peu le rêve de tout étudiant ou tout chercheur en histoire, tomber sur une source pareille.
C'est une source fabuleuse parce que c'est vraiment une fenêtre ouverte sur la société du temps, et surtout que Pepys s'y montre vraiment au naturel et parle de tout ce qui se passe, mais aussi de ce qu'il vit au naturel et sans filtre. On a vraiment, on entre dans son intimité, dans sa pensée, dans les faits et gestes de sa vie et de l'époque aussi. Mais alors peut-être pour présenter les choses de manière plus large, on pourrait commencer par dire un mot du XVIIe siècle anglais, ensuite de Samuel Pepys, et puis en venir au journal et à son contenu. Parce que le XVIIe siècle anglais, c'est vraiment un siècle charnière dans l'histoire de l'Angleterre et dans l'histoire de l'Europe, parce que, en fin de compte, l'Angleterre a fait sa révolution plus d'un siècle avant la France, et même deux révolutions. Donc le XVIIe siècle, c'est le siècle des rois Stuart, Jacques Ier, Charles Ier, Charles II, Jacques II, les rois Stuart qui vont se trouver confrontés au Parlement anglais. Et donc ça va être le conflit entre les rois qui ont des visées un peu absolutistes, à la manière de ce qui se développera plus tard sur le continent avec Louis XIV, confrontés à la résistance du Parlement qui affirme ses prérogatives. Et donc il y aura deux révolutions. Une première qu'on appelle la révolution puritaine, qui va être menée par les parlementaires et en particulier par l'un d'entre eux, par Oliver Cromwell, contre le roi Charles Ier, et une seconde par la suite dont je reparlerai. La première révolution a donné lieu à une guerre civile. On parle de la guerre civile qui oppose les troupes du Parlement, les têtes rondes aux cavaliers, les troupes du roi. Et cette guerre civile va entraîner la victoire des parlementaires. Et il y avait une question religieuse aussi derrière cela. Ces parlementaires sont pour beaucoup des puritains. Le roi va être l'objet d'un procès qui va conduire à sa décapitation en 1649. À la suite de quoi va se mettre en place une sorte de république qu'on appelle le Commonwealth, qui va être dirigée par Oliver Cromwell, le Lord Protecteur, qui va instaurer en fin de compte une sorte de dictature puritaine, très rigide, très moralisatrice en quelque sorte. Le théâtre va être interdit, les tavernes vont être fermées, certaines tavernes vont être fermées ou en tout cas fermées à certains moments, et bien entendu le dimanche. Et donc c'est tout un ordre moral assez lourd qui va se mettre en place pendant cette période, une période qui va être marquée aussi par une recrudescence de la question irlandaise. Cromwell va être d'une extrême férocité à l'égard de l'Irlande, et on peut dire qu'une bonne partie de la question irlandaise se dessine à ce moment-là, et la domination finalement de l'Angleterre sur l'Irlande. C'est à ce moment-là aussi que l'Angleterre développe un peu sa marine, commence à développer sa marine. Alors, Cromwell va finir par mourir en 1658. Il n'aura pas voulu prendre le titre de roi. Il reste Lord Protecteur. C'est un gentleman dictateur, comme un historien français, Bernard Cottrel, l'a qualifié. Et son fils, Richard Cromwell, va exercer le pouvoir pendant une courte durée, mais il n'était pas à la hauteur et il n'avait pas envie d'exercer le pouvoir, si bien que à ce moment-là, le Parlement va faire appel au retour de la monarchie et au fils de Charles Ier, qui avait été exécuté, Charles II, que l'on va aller chercher en Hollande en 1660, et Samuel Pepys fera partie d'ailleurs du voyage pour aller chercher le roi et restaurer la monarchie. Alors là, c'est pendant cette période justement que le journal de Pepys relate les événements du temps, hein, cette restauration qui va de 1600 jusqu'à 1685 et surtout 1688 avec la glorieuse révolution. Donc c'est une restauration qui est marquée par les règnes de Charles II et puis de Jacques II. Jacques II à qui on va reprocher son catholicisme, il s'était converti au catholicisme, à qui l'on va reprocher aussi d'être trop favorable, eh bien justement au papisme, et donc les Anglais vont chercher auprès des Néerlandais, des Hollandais, une aide, et notamment auprès de sa fille, qui elle était protestante, la fille de Jacques II, Mary, qui était mariée au Statthouder des Pays-Bas, c'est-à-dire au chef des armées des Pays-Bas, le lieutenant général Guillaume d'Orange. Et donc Guillaume d'Orange et Mary vont être appelés au pouvoir, et avec une armée néerlandaise qui va arriver sur l'île, en Grande-Bretagne, enfin l'Angleterre, c'est une révolution qui va, une révolution protestante et parlementaire qui va se produire en 1688 et qui va déboucher sur la Déclaration des droits, le Bill of Rights de 1689, qui instaure une monarchie parlementaire dans laquelle le pouvoir du roi est considérablement réduit au profit du pouvoir du Parlement. C'est un modèle de monarchie parlementaire qui va devenir véritablement l'idéal de tous les penseurs de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, des penseurs des Lumières, qui vont voir dans l'Angleterre un phare politique pour l'Europe, car c'est un régime équilibré dans lequel le Parlement a l'essentiel du pouvoir et dans lequel aussi les pouvoirs justement sont plus ou moins équilibrés, sont relativement distincts, ce qui va servir de modèle par exemple à Montesquieu avec sa théorie de l'équilibre des pouvoirs, s'inspirant aussi de John Locke. Ça va servir de modèle aussi à Voltaire qui va séjourner en Angleterre et qui va écrire les lettres philosophiques ou lettres anglaises dans lesquels il fait l'éloge de ce système anglais. C'est véritablement le laboratoire de notre vie politique moderne, de nos régimes de démocratie représentative, monarchie parlementaire en l'occurrence ici. C'est aussi là que vont s'élaborer en quelque sorte les premiers partis politiques. Dans cette Angleterre du temps, c'était les Whigs, les libéraux opposés aux Tories, les conservateurs, les Whigs étant favorables à un régime parlementaire fort, alors que les Tories étaient plutôt partisans du roi et d'un pouvoir fort pour le roi. Le Parlement qui s'est mis en place fonctionne avec deux chambres, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes, et donc c'est ce système-là, ce système parlementaire, qui va véritablement servir de modèle, en fin de compte, à toute l'évolution politique qui sera poursuivie par la suite au XVIIIe siècle, en Europe et aussi, en fin de compte, avec la Révolution française. Mais notre vie politique moderne est largement l'héritière de ces révolutions et de ces changements politiques opérés dans cette Angleterre du XVIIe siècle.
Alors, peut-être vous demander encore un petit travail de saut en arrière, parce que donc, si je comprends bien, cette période est marquée par des tensions entre la royauté, le Parlement, et on peut rajouter en troisième pied de ce tabouret l'élément religieux. Mais donc ça veut quand même dire qu'au départ, lors de la première révolution, le Parlement avait déjà du poids. Alors ce Parlement, il s'est institué comment en Angleterre, puisque ce n'était pas encore la Grande-Bretagne? Qu'est-ce qui fait que un groupe de personnes a pu acquérir un tel pouvoir pour pouvoir s'opposer au roi?
Oui, alors là, il faudrait remonter effectivement plus loin dans le passé. La base, en quelque sorte, de cette monarchie réduite en Angleterre au profit d'une représentation au travers du Parlement remonte à sa racine, en tout cas, à la Magna Carta, à la Grande Charte de 1215, hein, qui a été prise contre ou avec l'aval contraint et forcé du roi Jean sans Terre, frère de Richard Cœur de Lion. Et c'est petit à petit, effectivement, que s'est mis en place un régime dans lequel une représentation quand même d'une minorité de la population, mais
Une élite.
d'une élite, voilà, d'une élite, va apparaître de plus en plus forte. Et c'est déjà un système parlementaire, effectivement, qui existe, qui s'est développé au cours des siècles et qui existe déjà au XVIe et XVIIe siècle. Et c'est face à ce parlement que les rois donc de la dynastie des Stuarts vont se trouver confrontés. Dynastie des Stuarts, qui sont les héritiers, hein, de Marie Stuart, qui elle avait été exécutée à la demande de la reine Élisabeth première. Donc l'histoire est extrêmement violente, évidemment, dans toute cette période. La question religieuse est aussi très importante, puisque en Angleterre, avec Henri VIII et par la suite, Élisabeth Ière, c'est l'anglicanisme qui s'est instauré. Donc, une rupture déjà avec Rome, au départ pour des questions de mariage qui devait être annulé, qui n'a pas été annulé par Rome, enfin, ou qui n'a pas été validé avec Henri VIII et ses six femmes. Hein, je ne reviens pas sur tout le détail de cette histoire des Tudors. Mais donc, il y a déjà une forme particulière de protestantisme qu'on appelle l'anglicanisme qui s'est mis en place au XVIe siècle et au XVIIe siècle, eh bien, on reproche aux Stuarts d'être trop proches, en fin de compte, du catholicisme. C'est toujours la crainte du papisme, la peur d'un complot papiste qui pourrait eh bien opérer un coup d'État et réinstaurer un pouvoir catholique, alors que les catholiques, à ce moment-là, ne représentent plus qu'environ 2% de la population en Angleterre. Mais parallèlement aussi à l'anglicanisme, il y aura donc le courant du puritanisme qui va se développer. C'est un protestantisme plus intense, plus excessif, plus rigoureux, plus moralisateur. Et c'est ce puritanisme qui va l'emporter avec Cromwell. Mais lors de la restauration en 1660 des Stuarts, hein, il va y avoir un retour de balancier par rapport à cela. Fin du puritanisme, réinstauration des théâtres, réouverture des tavernes, un certain vent de liberté, peut-être aux yeux des puritains de débauche, qui va se mettre en place, qui va souffler à ce moment-là, et une politique de la part des souverains de l'époque, Charles II, Jacques II, qui va être favorable à l'anglicanisme, mais parfois un peu plus ouvert évidemment au catholicisme, et aussi opposé à certains courants protestants dissidents, justement les anciens puritains, qui vont parfois devoir s'exiler. Certains vont aller justement dans le Nouveau Monde, en Amérique, et trouver refuge là. Parce qu'ils ont une approche plus radicale, en quelque sorte, de leur protestantisme que celle un peu enfin, très, plus modérée de l'anglicanisme.
Alors, cette Angleterre du 16e-17e siècle, Benoît Béhat-de-Ricq, elle, géographiquement, elle représente quoi par rapport à la Grande-Bretagne actuelle, qui reprend donc une partie de l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles, etc.
Alors l'Angleterre domine, donc l'Angleterre représente un territoire qui domine malgré tout, enfin il y a une région qui domine les autres, mais il n'y a pas encore l'union entre effectivement l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et donc l'Irlande, l'Irlande du Nord en tout cas, qui s'opère avec le justement avec le traité d'union. Je pense qu'il remonte au XVIIIe siècle, 1707 si je ne m'abuse, en tout cas à cette période-là. C'est pas encore donc la Grande-Bretagne, mais l'Angleterre est tout de même dominante dans cet espace britannique malgré tout.
Oui, la question est intéressante d'un point de vue religieux, puisque l'Irlande est plutôt catholique, l'Écosse aussi.
Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des conflits et que Cromwell laisse une trace très néfaste, très sanglante en Irlande, car effectivement, luttant contre les catholiques irlandais, il va véritablement faire commettre par ses troupes des massacres dont la mémoire reste très douloureuse aujourd'hui.
We be soldiers free, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country with never a penny of money. Here, good fellow, I drink to thee. Pardonnez-moi, je vous en prie. To all good fellows, wherever they be, with never a penny of money. And he that will not pledge me this, pardonnez-moi, je vous en prie. Pays for the shot, whatever it is, with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country with never a penny of money. Charge it again, boy, charge it again. Pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. We be soldiers three. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth of the low country with never a penny of money.
C'est dans cette période donc que Samuel Pepys écrit son journal. Qui est ce Samuel Pepys?
Oui, alors Samuel Pepys est né en 1633, c'est l'année du procès de Galilée, et il est mort en 1703 à l'âge de 71 ans. Et là, c'est l'année de la fondation de Saint-Pétersbourg, pour donner quelques repères. C'est quelqu'un qui vient d'une origine assez modeste. Son père était tailleur et sa mère blanchisseuse. Et c'est le cinquième enfant d'une fratrie de 11, dont 7 vont mourir en bas âge. Donc il sera l'aîné des survivants. Il aura un frère et 2 sœurs. Et il aura la chance d'être remarqué par des cousins éloignés, je crois du côté de son père, les Montagu, chez qui il va séjourner pendant les troubles de la guerre civile entre le Parlement et les puritains de Cromwell. Ses cousins, en particulier Lord Montagu, qui deviendra par la suite le comte de Sandwich, va le soutenir dans toute sa carrière, et à commencer par ses études qu'il va mener à St. Paul à Londres, et puis à Cambridge au Magdalen College. Et par la suite, il va entrer dans l'administration, d'abord chez George Downing, celui de la rue du même nom, et puis justement chez Lord Montagu, qui va le faire entrer au ministère de la Marine. Et au sein de ce ministère de la Marine, Samuel Pepys va franchir toutes les étapes, va gravir tous les échelons jusqu'à avoir quasiment rang de ministre. Il va devenir secrétaire de l'amirauté. C'est lui qui va faire de l'Angleterre du temps l'une des grandes puissances et même la principale puissance maritime, navale. C'est le père de la Royal Navy, en quelque sorte. Il va y consacrer énormément d'énergie, de travail, d'assiduité. Donc c'est quelqu'un qui était, oui, un beau travail, on peut le dire, très efficace, très intelligent. Parallèlement à cela, il va aussi s'intéresser un peu à la politique. Il sera à un moment membre du Parlement. Aussi aux sciences, il va être membre de la Royal Society qui s'occupe justement de la promotion des sciences. Il va en être à un moment le président, justement au moment où Isaac Newton va y publier ses Principia Mathematica, donc ses principes mathématiques de philosophie naturelle, livre publié en 1687, dans lequel il développe sa théorie de la gravitation universelle. Alors, il faut dire, petite parenthèse, que ce n'est pas tout à fait avec l'appui de Pepys, qui était président jusqu'en 1686, je crois, qu'il a publié ce livre, parce que Pepys, à l'époque, avait utilisé toutes les ressources, tous les livres sterling de la société pour publier une grande encyclopédie des poissons. Encyclopédie illustrée, qui est un ouvrage assez beau, important en la matière. C'est un des ouvrages importants, le premier grand ouvrage d'ictiologie publié en anglais et illustré magnifiquement, mais ça avait coûté très cher et ça a été un échec commercial, si bien que il n'y avait plus d'argent pour publier le livre de Newton. Et c'est Edmund Halley, celui de la comète, qui va financer sur ses propres deniers la publication du livre de Newton. Donc on peut dire que ce n'est pas tout à fait grâce à Pepys que les Principia Mathematica ont été publiés. Et pourtant, sur la page de couverture, le nom de Pepys est écrit en un peu plus grand que celui de Newton, car il présidait à cette époque la Royal Society.
Oui, si ce n'est qu'il a évidemment peut-être fait preuve de peu de discernement en choisissant l'histoire des poissons plutôt que la gravité.
Voilà, tout à fait. C'est un personnage qui était un personnage très respectable, un haut fonctionnaire, quelqu'un qui est un homme aussi de culture. C'était pas à proprement parler un scientifique, mais c'est un homme instruit, un gentilhomme du temps qui s'intéressait donc à tout, qui avait une grande bibliothèque de 3000 ouvrages, qui lisait beaucoup, qui allait au spectacle, au théâtre, au concert, enfin on en reparlera. Mais voilà, c'était un personnage de haute dimension, certes d'origine modeste, mais qui s'était hissé au plus haut des instances de l'époque, qui fréquentait la cour, qui était en contact avec le roi. Voilà ce que ses contemporains ont su de lui.
Alors justement, Samuel Pepys, personnage d'origine modeste qui arrive quasiment au rang de ministre, vous disiez, Benoît Béhardéric, est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans son journal, justement, ce cheminement et cette diversité de points de vue sur la société anglaise de l'époque?
Oui, ça apparaît dans son journal. Il tient un compte assez précis de l'évolution de sa carrière et de l'évolution de ses biens. Ses richesses augmentent avec les années. Sa position sociale et sa position au sein de l'administration devient de plus en plus florissante au fil du temps, et donc il en tient un registre assez détaillé. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que dans ce journal, il se montre aussi un peu moins respectable qu'il ne semble l'avoir été dans sa vie. C'est ce qui a fait dire justement à Robert Louis Stevenson, l'auteur de L'île au trésor, il semble que Pepys n'ait eu d'autre désir que de se montrer respectable et qu'il ait tenu un journal pour montrer qu'il ne l'était justement pas.
Oui, ceci dit, vous le disiez en début d'interview, ce journal, au départ, était quelque chose de totalement personnel, n'était pas du tout destiné à être analysé, étudié, publié.
Oui, alors c'est vrai que il ne l'a pas écrit pour que ça soit connu. On ne sait d'ailleurs pas pourquoi il a écrit ce journal. Il semble d'abord qu'il y avait une certaine mode des journaux intimes à l'époque. George Downing en tenait un, son protecteur, Lord Montagu aussi, celui qu'il appelle My Lord dans son journal. Par ailleurs, il a sans doute pris goût au fait de relater certains événements, d'écrire, d'être une sorte de journaliste ou de chroniqueur, et donc il aimait en quelque sorte faire cela. Il l'a fait dans des lettres et dans des textes qu'il destinait à Lord Montagu. Donc c'est peut-être tout ceci qui l'a amené à un jour de 1660 prendre la plume et à consigner sa vie dans un journal. Peut-être aussi qu'il y avait une sorte de dialogue avec Dieu, parce que Dieu est toujours présent aussi dans le journal, il est toujours pris à témoin, il est toujours sollicité, invoqué, et comme dans l'anglicanisme, dans le protestantisme de manière générale, la confession est supprimée, eh bien c'est peut-être une manière de poursuivre une sorte de confession à Dieu. Donc voilà les hypothèses qu'on peut émettre quant à la constitution de ce journal, mais il est évident que normalement, ce journal ne devait être lu par personne d'autre que par Pepys lui-même, si ce n'est peut-être par Dieu. Voilà. Mais donc, bien entendu, de ce point de vue-là, il pouvait se montrer tout à fait au naturel. Et ça transparaît dans une série de passages hein, du journal. Bon, pas tous, bien entendu. Parce que dans l'ensemble, ce journal reflète la vie politique, la vie sociale, la vie culturelle du temps, mais il y a aussi tous les aspects qui concernent sa vie personnelle, la vie de son corps, qui tient une place très importante, et sa vie sentimentale aussi, et les passages dans lesquels notamment il raconte comment il commet un certain nombre d'infidélités par rapport à sa femme. Mais peut-être on peut reprendre chacun de ces éléments de manière un peu plus détaillée. Donc le journal porte sur la période 1600-1669. C'est la période de la Restauration, c'est le début de la Restauration sous Charles Ier.
Ça veut donc dire que quand il... 1600-1669, Pepys, vous disiez, est décédé à l'âge de 71 ans. Oui. Donc, il démarre son journal en racontant une série de... Enfin, il revient dans son histoire pour démarrer.
Non, il démarre de manière assez un peu abrupte en parlant de l'état du royaume à l'époque et de sa propre situation personnelle. Qui est bonne, mais il dit « on me croit riche, or à la vérité je suis pauvre ». Ça, c'est une petite exagération, mais il dit « ma condition au sein du bureau est aléatoire ». Donc il se plaint un tout petit peu de la réalité de sa situation qui n'est pas aussi florissante et aussi bonne qu'elle n'y paraît à l'extérieur. Mais il part de manière un peu abrupte. Il a à ce moment-là, je pense c'est le 1er janvier 1660, il a, je crois, 26 ans, et son journal va donc durer jusqu'à ses 36 ans. Un peu moins de 10 ans de sa vie sur les 71 qu'il a vécu. Et donc, il relate, je disais, l'évolution de la vie politique de l'époque. Et parmi les événements importants, il y en aura deux autres dont on parlera, hein, puisqu'il a été témoin de deux événements qui ont été terriblement marquants dans l'histoire de Londres, c'est la Grande Peste et le Grand Incendie, mais j'y reviendrai. Mais à part cela, il relate aussi le couronnement du roi Charles II en 1661. Et c'est intéressant parce que dans cette relation qu'il fait de ce couronnement, il dit que c'était merveilleux, étincelant, le roi en costume d'apparat, etc. Et puis à un moment, il s'arrête en disant « mais j'avais une telle envie de pisser que j'ai quitté la cérémonie avant la fin ». Et c'est à l'image de ce journal qui restitue encore une fois sans filtre, sans phare, la vie de son corps aussi, les choses très intimes. Parfois il est malade, il le dit, certains jours il a trop bu, il a mal à la tête, à d'autres moments il souffre de, je ne sais pas, de diarrhée ou que sais-je, ou alors on a aussi tout le détail de ses repas, tout ce qu'il a mangé, tout ce qu'il a bu aussi, parce que c'est quelqu'un qui est un hédoniste. Il aime beaucoup la bonne chair et les boissons, mais c'est une sorte d'hédoniste contrarié, parce que malgré tout il a été éduqué dans le puritanisme, puisqu'il est né au moment où finalement c'était Cromwell et les puritains qui sont arrivés, enfin il est arrivé, il a vécu au moment où les puritains sont arrivés au pouvoir. Il a passé sa jeunesse sous l'influence du puritanisme, et donc il doit en quelque sorte se trouver un juste équilibre entre les désirs de son corps, son goût pour les bonnes choses, et en même temps sa conscience morale et religieuse qui est très forte aussi. Cela intervient à la fois par rapport à son goût pour la nourriture, mais cela intervient aussi à d'autres niveaux. Mais je reviens un tout petit peu à la politique. Donc la politique, permet de voir l'évolution de l'opinion publique à l'égard de Charles Ier. Au départ, l'opinion publique est assez favorable à l'égard de ce roi qu'on est allé chercher, mais petit à petit, l'opinion va se dégrader à son propos, parce que on le soupçonne justement de papisme, on le soupçonne d'être un peu trop favorable aux catholiques, on lui reproche aussi d'être trop intransigeant à l'égard des protestants dissidents, donc les héritiers en quelque sorte des puritains. On lui reproche parfois une certaine paresse, ses maîtresses, les maîtresses qui sont importantes dans l'entourage du roi. On lui reproche également les guerres qu'il mène contre la Hollande, car à l'époque, la puissance de l'Espagne avait fortement décliné, et les deux grandes puissances maritimes qui apparaissaient sur le devant de la scène et qui allaient être en concurrence, c'est justement la Hollande, donc les Provinces-Unies, et l'Angleterre. Et c'est notamment dans ce contexte de guerre entre néerlando-anglaise, donc la guerre entre la Hollande et l'Angleterre, que va se produire la prise de possession par les Anglais de la colonie de New Amsterdam, qui va devenir New York. New York, du nom du frère du roi Charles II, Jacques, mais qui était à ce moment-là duc d'York, et donc on va donner à cette colonie son nom, New York, la Nouvelle York. Jacques qui deviendra par la suite le roi Jacques II, de 1685 à 1688. Et donc on voit toute cette évolution, on voit aussi la vie de cour, la vie à la cour du roi Charles II, et aussi toutes les intrigues, aussi la manière dont l'administration est assez corrompue. Mais à vrai dire, Samuel Pepys est aussi un acteur de cela. Il va certes peut-être essayer de lutter un peu contre la corruption dans la marine, mais il va lui-même accepter toute une série de cadeaux, hein, de présents qui lui sont faits. Alors ça peut être des présents un peu anodins, comme du lard fumé, des esturgeons, de l'eau de fleur d'oranger, de la langue de bœuf, mais ça peut être des choses un peu plus conséquentes, comme des statuettes d'albâtre, une bague en diamant, ou parfois de l'argent sonnant et trébuchant. Et on a notamment un passage assez cocasse dans lequel il reçoit de la part de Sir William Warren une paire de gants pour sa femme, dans laquelle il sent qu'il y a quelque chose d'un peu dur. Et William Warren, qui était le principal négociant en bois, qui avait une sorte de monopole de fait avec la marine. Et donc il tâchait d'avoir les bonnes grâces de Samuel Pepys. Pepys qui rentre chez lui après avoir parlé avec ses personnages dans une taverne, et qui est très impatient de voir ce qu'il y a dans cette paire de gants, et qui attend que sa femme ait quitté la pièce pour retirer le papier qui entoure la paire de gants et regarder ce qu'il y a dedans, et il trouve 40 pièces d'or, ce qui le remplit de joie, à tel point qu'il ne parvient presque pas à manger le soir, et qu'il se félicite vraiment que Dieu l'ait en si bonne grâce et soit si généreux à son égard. Donc il remercie Dieu pour ce qui, à nos yeux aujourd'hui, apparaît très clairement comme un pot de vin.
Voilà, c'est ici que se referme cette histoire de savoir. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Benoît Berderic de m'avoir accordé cette interview. Interview qui se poursuivra la semaine prochaine avec la suite de la vie et de la carrière de Samuel Pepys. D'ici là, portez-vous toutes et tous très bien. Au revoir. What?